deux sortes d'usages. Je prends un exemple, ça vous éclairera. La chaussure, je peux en user pour la mettre au pied pour marcher, et je peux en user pour l'échanger contre autre chose. Et le commerce naîtra de l'échange, donc d'un usage non propre. Alors, Aristote souligne, et c'est intéressant, que ce commerce n'est pas paraphousine, c'est-à-dire en dehors de la nature, parce qu'il reste finalisé pour satisfaire les besoins. C'est important, finalité toujours. Parce qu'il reste finalisé pour compléter ce que je n'avais pas, il n'est pas en dehors de la nature. Cependant, il n'est pas naturel non plus, parce que ce n'est pas un besoin naturel de l'homme que de faire du commerce. Alors, troisièmement, c'est le point de vue de la monnaie qui est très intéressant parce qu'Aristote sent extrêmement profondément tous les problèmes actuels. Alors, la monnaie apparaît aussi à cause du conditionnement, c'est-à-dire qu'il faut échanger entre les cités, on ne peut plus transporter ce qu'il faut pour le troc. Alors, la monnaie, elle est un moyen, c'est important, pour faciliter l'échange. Aristote souligne que la monnaie, comme moyen, a malgré tout une valeur intrinsèque. Pour elle-même, elle vaut quelque chose. Et à partir de ce fait-là, elle peut devenir une finalité pour elle-même, parce qu'elle a une valeur en elle-même. Alors, c'est là qu'il y a... si la monnaie devient fin, on comprend que la richesse est illimitée, parce qu'il n'y a aucune raison que je m'arrête à accumuler de l'argent. Alors, on est là à la perversion la plus totale, parce que c'est le moyen qui devient la fin. Je vous lis ça parce que c'est intéressant, Aristote souligne bien. Une fois la monnaie inventée à cause de la nécessité de l'échange, une autre forme de crématistique vit le jour, le petit négoce, alors c'est péjoratif en grec, hein, qui tout d'abord se fit probablement d'une manière toute simple, mais prit ensuite sous l'action de l'expérience une allure plus savante en cherchant les sources et les méthodes d'échange destinées à procurer le maximum de profit. Là, on voit bien, c'est plus répondre à une autarcie au niveau du économique, mais c'est le profit. Alors, ce qu'on peut juste dire en conclusion, c'est qu'il y a une perversion, Aristote, c'est très intéressant, il y a une perversion du point de vue éthique par la monnaie, c'est que les vertus morales ne sont plus finalisées, il donne l'exemple, c'est que je peux avoir du courage pour accumuler le plus de possible d'argent. Il dit, on peut faire de la médecine pour gagner de l'argent et non plus pour soigner. Perversion encore. Même par l'art stratégique. Bon. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut dire, c'est que de voir comment le conditionnement l'a emporté par rapport à la finalité, si bien qu'Aristote souligne que l'opinion commune même de la richesse, c'est le... Et en effet, on pose souvent en fait la richesse comme n'étant rien d'autre qu'une abondance de munéraires, parce que c'est à la monnaie qu'on rapporte la crématistique et sa forme mercantile. Donc, l'opinion commune est devenue la richesse, c'est non plus une richesse limitée pour subvenir à mes besoins, mais une richesse, c'est l'argent, l'accumulation de l'argent. Donc on voit comment Aristote a senti tous les petits problèmes actuels, quoi qu'ils sont des gros, ils sont des gros problèmes. Alors, bon, dernière petite chose, c'est la richesse au niveau de la cité. Alors, c'est la fin du chapitre 11. Aristote montre qu'il y a une richesse nécessaire à la cité parce qu'il lui faut un certain pouvoir. Autorité-pouvoir, on voit la clé, un certain pouvoir au service du bien commun. Alors on voit, je souligne juste, si le pouvoir n'est plus au service de l'autorité, ça équivaut, l'économie remplace le bien commun, alors le pouvoir prend la place de l'autorité. Bon, je fais que souligner parce qu'on n'a pas le temps. Alors le chapitre 12 et 13, ça regarde les relations dans la famille, on n'a pas le temps de le faire. Alors, qu'on fait la discussion, la conclusion d'abord.
On peut donner quelques points de conclusion générale, comme ce soir. Donc Aristote a un petit peu à chercher à connaître ce qu'est la cité, dans laquelle je vais découvrir l'homme comme animal politique. Bon, la dimension politique de l'homme avec une expérience propre, hein, c'est le point de départ. Et donc il y a un point capital qui, je crois qu'il faut toujours souligner, c'est les liens entre éthique et politique, hein, avec la finalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a nécessité de l'éthique pour vivre en communauté d'une manière parfaite ? Donc ce que j'ai dit, quelqu'un qui n'a pas d'expérience personnelle, est-ce qu'il peut vivre en communauté ? Donc les liens éthiques et politiques au point de vue pratique. D'autre part, un petit truc qu'il faudrait se demander, je ne sais pas si on peut le faire, c'est que la politique, on voit qu'elle est fondée sur la relation. Et en métaphysique, on voit ce que c'est que la relation, ça ne tient pas par soi-même. Donc est-ce qu'en métaphysique même, il n'y a pas quelque chose qui fonde le fait que la politique doit être liée à l'éthique ? C'est-à-dire qu'il faut la finalité à côté de la relation. Et puis, toujours retenir que la politique, c'est un mixte. Donc il y a quelque chose qui est complexe. Donc c'est une étude qui est... Bon, les principes, parce qu'il y a un principe en philosophie politique, c'est pas facile à voir. Hein, et on voit que Aristote fait toujours le jeu entre ce qui est principe et puis ce qui est dans l'ordre pratique. Alors là, c'est beaucoup moins net. Hein, à propos de la politique, on n'a pas souligné dans le texte. Mais... Bon, puis un petit truc qui pourrait peut-être ouvrir un petit peu le débat, ce serait de se demander. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, que l'Église nous dit que la fin du mariage, c'est la procréation. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Est-ce qu'il faut comprendre ça au point de vue éthique ? En ce moment, ça devient scandaleux. Est-ce qu'il faut comprendre ça au niveau politique ? Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas toujours précisé. Parce que peut-être que quand l'Église dit que la fin du mariage, c'est la procréation, c'est vu du point de vue politique. Et c'est vu aussi du point de vue qu'il faut une éducation pour les enfants. Et est-ce que ce n'est pas le rôle du sacrement de mariage ? C'est-à-dire une grâce particulière qui aide à l'éducation. Donc, l'éducation étant donc vue du côté politique. Alors que du côté éthique, la relation de l'homme et de la femme, c'est vu en éthique, quoi. Donc l'enseignement de l'Église, c'est plus la même chose. C'est plus la fin du mariage, la procréation. Donc quand l'Église dit ça, est-ce que c'est pas vu du côté politique ? Est-ce que c'est pas une chose qu'il faut se demander ? Et puis ensuite, les liens entre famille et cité, qui seraient peut-être intéressants à voir. On a vu que la famille était le fondement naturel de la cité. Donc la famille donne la vie, c'est le fondement, et la cité donne l'épanouissement, enfin permet que l'épanouissement vienne. Hein, donc, les liens entre fondement et finalité, est-ce que famille et cité ne sont pas indissolubles ? Quand la cité se corrompt, qu'est-ce qui reste de la famille ? Et si la famille n'existe plus, est-ce qu'il peut toujours y avoir une cité ? Donc, un petit peu des problèmes qu'il faudrait soulever, parce qu'ils sont peut-être un peu actuels. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait à dire là-dessus. On a été un petit peu long.
Un bien familial, un bien personnel et un bien éthique, politique. les choses comme ça, comment on la vit, comment on la, quand on se situe en dehors du contexte. Et au fond, c'est tous les rapports entre l'éthique et la politique qui sont posés là. Alors, est-ce qu'il faut le résoudre aujourd'hui ? Moi, je dirais plutôt au terme. Au terme, il faudra se poser la question, parce que c'est la question que vous avez posée au point de départ, s'il y a une science politique, donc une philosophie politique, il y a un principe propre. Et ce principe propre, puisqu'on est dans l'action humaine, il est bien évident que la politique se situe au niveau de l'action humaine, comme l'éthique. Et donc elle se situe au niveau du bien. Alors, quelle peut être l'originalité d'un bien personnel et le bien politique et le bien familial. Mais au fond, pour Aristote, il n'y a pas une philosophie de la famille. Alors qu'il y a une philosophie politique et une philosophie éthique. Il n'y a pas de philosophie politique. La famille est impliquée dans la politique, comme fondement de la politique. Il n'y a pas une famille. Aristote n'aurait jamais fait une philosophie de la famille. Elle est partie. On ne peut pas faire une philosophie. Ça, tout de suite, ça situe très bien que le bien de la famille, et c'est pour ça du reste qu'il situe tellement fortement que le bien de la famille, c'est quand même la procréation. Comme tel. Et il n'envisage pas, alors là, ce serait la très grosse différence avec le point de vue famille vue à la manière d'Aristote et famille vue du point de vue chrétien. Je crois que le sacrement de mariage donne à la famille une dignité que la famille n'a pas à un niveau proprement philosophique. Parce que ça sanctifie les époux dans leur relation d'amour d'amitié. Oui. Donc ça donne à la famille quelque chose de particulier. C'est en ce sens-là que je peux dire qu'il y a une théologie de la famille et qu'il n'y a pas une philosophie de la famille. Dans le sens propre. Il y a une théologie de la famille parce que c'est ça, les personnes se sanctifient par ce moyen particulier. Tandis que Aristote ne regarde pas la sanctification des époux. C'est un droit de la génération. Il regarde le point de vue politique. Qu'est-ce que la famille apporte à la politique ? Qu'est-ce que la famille est seule à pouvoir apporter à la politique ? On est quand même tout dans le contexte. Alors ça rejoint le contexte que vous avez vu tout à l'heure à propos de l'esclavage, je pourrais revenir, parce que c'est très important, cette question-là. Dans quelle mesure une politique peut-elle se faire en dehors du conditionnement dans lequel on est ? Dans quelle mesure une éthique peut se faire en dehors du conditionnement dans lequel on se trouve ? Puisque ça se base sur l'expérience. Il y a le principe et l'expérience. Alors là, c'est là où je crois qu'on pourrait saisir très profondément la différence entre l'éthique et la politique. Et ça, on anticipe. J'ai dû vous poser d'abord vos questions.
À propos de l'esclavage, dans le chapitre 13, Aristote semble responsable de l'acquisition des vertus de son esclave. Alors, si l'esclave acquiert la prudence, il s'y met.
Par définition, parmi l'esclave ne peut pas.
Mais alors, justement,
la fin, donne toujours.
Il dit que c'est impossible à cause du conditionnement politique. Mais uniquement à cause du conditionnement.
Ah oui, c'est l'esclave de nature humaine. Il n'a jamais dit que l'esclave était un animal. Il a toujours considéré que l'esclave avait la nature humaine. Vous voyez, il fait la différence entre l'esclave, l'épouse, l'enfant. Je crois que c'est ça qu'on doit regarder un peu. Alors on doit le regarder par rapport à Platon, et puis par rapport aux mœurs du temps. Dans quelle mesure Aristote, comme philosophe, dépasse-t-il les mœurs du temps ? Dans quelle mesure, comme philosophe, est-il uniquement celui qui justifie son époque ? C'est ça l'important. Vous voyez, comme toujours, le philosophe, il vit dans un contexte, on ne va pas lui demander prophète. Le prophète, il reçoit une révélation supérieure. Le philosophe, non. Il essaie de comprendre ce qui se passe dans son monde. On doit lui demander d'essayer de comprendre ce qui se passe dans son monde, comme philosophe. Alors, je crois que c'est toujours très important quand il s'agit d'esclavage, de la situation de la femme et de la situation de l'enfant, de faire le parallélisme avec Platon. Parce qu'alors là, on voit la différence entre Aristote et Platon. C'est très net du côté de la femme. Pour Platon, il n'y a pas d'amitié véritable entre l'homme et la femme. Impossible. Aristote reconnaît qu'il peut y avoir une véritable amitié entre l'homme et la femme. C'est en ce sens-là que le mariage devient une communauté naturelle. Parce que si le mariage était uniquement pour la procréation, on redeviendrait la position de Platon. Mais pour Aristote, il y a une amitié. Et c'est évident que la finalité du mariage n'est pas l'amitié des époux. Pourquoi ? Parce que l'amitié des époux est en dehors du point de vue politique. C'est plus que le point de vue politique. Si on mettait l'amitié de l'époux et de l'épouse dans le point de vue politique, l'autorité politique aurait un droit à intervenir au-dessus. Tandis qu'au contraire, le point de vue de la famille entre dans le point de vue politique par la procréation. Et l'État doit s'intéresser à ça. Quel est le droit de l'État sur la procréation ? Ça, l'État, au fond, n'a pas beaucoup de traités. Mais c'est le problème d'aujourd'hui, ça. Est-ce que l'État a le droit de faire un planning familial ? Est-ce que l'État a le droit d'intervenir comme en Chine en disant un seul enfant, pas plus, et ainsi de suite. Vous voyez, si je prends un peu matériellement les choses d'Aristote, je dirais la famille, c'est pour la procréation, elle est dépendante de l'État parce qu'elle est le fondement, donc l'État doit intervenir au moyen de procréation. Tandis que Aristote dit que l'amour et l'amitié qui existent entre les deux épouses ne font pas directement partie du pays politique. Aristote reconnaît qu'il peut y avoir une liberté dans le choix de l'époux et de l'épouse, et c'est de l'ordre de l'amitié. Alors, Platon, au contraire, n'a pas vu du tout ce point de vue de l'amitié entre l'homme et la femme, donc il n'a pas donné à la famille un statut vraiment au-dehors, en dehors de la politique, puisqu'au fond, la femme est uniquement pour la procréation. Donc, là, on le voit. Du côté des enfants, je crois qu'Aristote, on le verra ça à la Paldeia, donc je ne vais pas trop le traiter. On va laisser la question de l'enfant chez Platon et chez l'enfant chez Aristote. C'est très intéressant. Et bien là, ma question ici, l'esclave chez Aristote et chez Platon. Alors, c'est dans quelle mesure, je dirais, dans quelle mesure les principes, vous avez touché un peu, j'aurais aimé vous expliciter plus. Dans quelle mesure les principes qu'Aristote a émis sont des principes qui, normalement, Aristote ne peut pas aller au-delà de ce qui existe légalement. On ne peut pas dire que c'est illégal d'avoir des esclaves, puisque c'est légal. Mais il peut montrer comment c'est légal. Et par là, montrer que, de fait, l'esclavage ne doit pas durer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il le dit sans le dire explicitement. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a quand même une petite contradiction interne dans ce qu'il dit. Il constate que l'esclavage est libre, il ne dit jamais que c'est contre nature. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. Alors, il y a la question de facto, la question de la nature. C'est là la question qui, je crois, est très importante. On est en politique. Donc, puisqu'on est en politique, le point de vue du fait et le point de vue du comment sont premiers. premier. Or, je crois que la position d'Aristote, c'est de constater que, de fait, beaucoup d'hommes n'ont pas la possibilité d'avoir une indépendance totale, une partie. C'est-à-dire d'avoir une véritable prudence. Si vous accordez à ces hommes une véritable prudence, leur indépendance, c'est l'autarcie, et qu'ils n'ont pas le pouvoir, eh bien, vous les conduisez à la ruine, le plus grand malheur. Parce qu'ils ne sont pas capables de se diriger. Mais à ce moment-là, leur bien, c'est d'être lié dans cet état particulier d'instruments au niveau pratique, au niveau de l'action, et non pas au niveau de l'efficacité. La tyrannie d'aujourd'hui, c'est que l'ouvrier est un instrument d'efficacité. C'est beaucoup plus tyrannique que l'esclave par rapport au foyer. Alors nous sommes nous tous liés à cause du côté affectif autour du mot esclave. On dirait tout simplement, si vous voulez, il faudrait enlever ce mot, vous voyez, pour montrer qu'il y a deux manières de servir quelqu'un. Il y a une manière de servir quelqu'un par un contrat d'instrument du côté de l'efficacité. Il y a une manière de servir de quelqu'un, d'être lié à lui dans sa finalité. Que l'un est humain et que l'autre n'est pas humain. C'est pas très bien. Parce que c'est une condamnation la plus brutale à tout ce qui se passe aujourd'hui. Le contrat qui vous lie uniquement au point de vue de l'efficacité pour arrêter cette
équilibre. Que veut dire exactement instrument d'action ?
Instrument d'action, ça veut dire qu'on est lié dans la prudence.
Parce que l'esclave travaille quand même.
Oui, mais c'est l'instrument d'action.
Pour produire quelque chose.
Mais c'est en premier lieu, c'est ça. Donc, vous êtes lié d'abord dans un lien d'action humaine, d'immanence humaine. C'est un lien de vie. Et c'est pas un lien d'efficacité.
Mais est-ce que ça veut dire que le maître, pour un esclave, n'a pas le droit d'utiliser son esclave pour n'importe quel travail ? C'est uniquement le travail domestique.
Pour son bien. Il doit l'utiliser en France. Que chaque fois qu'il l'utilise, c'est pour le bien du maître et le bien de l'esclave. Et quand ce serait uniquement le bien du maître, ce serait inhumain. Très loin.
C'est
ça le bien, c'est le serviteur de famille. C'est le vieux serviteur de famille qui lie à la famille. C'est ça. C'est tout ça. Alors, ça représente tout un climat qui pour nous est lointain. Mais c'est le serviteur qui fait partie de la famille, qui ne peut pas se considérer comme indépendamment de la famille. Alors, ça ne se voit plus aujourd'hui. Parce qu'au fond, on n'a plus que des relations et des contrats d'efficacité. Tout notre monde est perdu. Point de vue politique et point de vue humain complètement perverti, c'est l'efficacité qui compte, c'est l'économie qui compte. Ce n'est plus, et ça c'est ce que Marx a voulu dire, le point de vue politique sera commandé par l'économie et non plus par les relations humaines. Tandis que pour Aristote, la relation humaine demeure en premier lieu. Et c'est ça, je crois, vous voyez, en voyant ça, Aristote montre que l'esclavage, il dit textuellement que l'esclave de guerre, c'est inhumain et c'est condamnable. Pourquoi ? Parce que l'esclave de guerre est commandé par la puissance et non pas par la prudence. Donc celui qui domine et qui se fait des esclaves par la puissance, c'est inhumain et c'est condamnable. C'est contraire à la relation humaine. Oui, les trois analogies. Rappelez les trois analogies parce que vous les avez dites tellement rapidement, d'une façon tellement elliptique que je suis persuadé que tout le monde a compris.
Les trois analogies, c'est l'âme et le corps,
oui.
L'homme et les animaux.
Vous pourriez l'écrire parce que je crois que c'est très important ça. Parce que c'est, vous voyez, c'est la clé. Hein.
c'est nécessairement la même règle, c'est la même division qu'il convient d'appliquer à l'ensemble de l'espèce humaine. Par suite, ça c'est la conclusion des analogies. Par suite, quand des hommes diffèrent entre eux, autant qu'une âme diffère d'un corps et un homme d'une brute. Ceux-là sont par nature des esclaves pour qui il est préférable, alors c'est de coopérer à l'autorité d'un maître et non pas subir, si l'on en croit les exemples que nous avons cités plus haut.
Et coopérer dans la prudence. Oui. C'est-à-dire le maître se sert de l'autre en disant il ne peut pas arriver à une prudence, je me sers de lui pour son bien.
Oui, mais est-ce qu'on trouve dans la réalité deux hommes aussi différents que l'homme du corps?
C'est analogique. Mais ça n'existe pas, Aristote sait très bien que ça n'existe pas, parce qu'on ne trouve plus
en mer. Mais est-ce qu'ils ne disent pas ça pour fonder le truc que l'esclave appartient au maître?
Appartient, c'est là où toute la question. Alors, vous voyez, c'est là où la question appartient, qu'est-ce que ça veut dire? Appartient selon un droit de nature, est-ce qu'on est au niveau de l'action? Pour moi, toute la question est là.
Il cherche à fonder par nature.
Oui, il cherche à montrer que l'action est fondée par nature, mais c'est au niveau de l'action. Oui. Alors, il prend des exemples, vous voyez, on passe à un autre niveau, puisque âme et corps, vous êtes en philosophie du vivant, homme et animal, c'est encore en philosophie du vivant, et homme et femme, c'est au point de vue oui. Alors, c'est au point de vue de l'opération. Alors, je crois que c'est la différence entre l'analogie de la philosophie du vivant et puis le point de vue de, on est nettement en politique, donc on est au niveau de l'action humaine. Oui. Et l'analogie porte sur l'action humaine. Dans l'action humaine, il y a différents moments. Je peux avoir une action humaine où je suis indépendant, en ce sens que je pose un acte prudent, un acte de prudence, et donc je suis parfaitement autonome. Je peux poser un acte humain n'étant pas entièrement autonome. C'est l'obéissance. Oui. Alors, c'est en sens.
Mais pour le débat, pour Aristote, est-ce que ce n'est pas le bien que je possède?
Donc, je crois qu'il faut le comprendre, le bien que je possède. Alors, c'est là encore comment le concevoir. Est-ce que vous le concevez comme une possession au niveau dépendance totale, comme un instrument, organome? C'est l'organome, l'instrument relatif. Vous voyez? Alors, une possession. Possession naturelle pour le bien de l'autre. S'il est né séparé, il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Oui. Je crois que c'est sa perspective. Ça. Mais évidemment, je suis tout à fait d'accord que, en réalité, si on allait jusque-là, on doit dire qu'on doit reconnaître que l'esclave est un homme, qu'on doit libérer, puisqu'il est un homme, respecter la dignité humaine, et en même temps le maintenir dans un lien d'amitié pour qu'il puisse s'épanouir, coopérer.
Est-ce qu'il y a des hommes qui sont différents comme ça?
Demandez à Jean Vanier ce que c'est que la coopération avec des gens qui sont, je prends exprès l'exemple. Au fond, ce que Jean Vanier fait, c'est pas du tout des esclaves, mais c'est typiquement, philosophiquement parlant, c'est reconnaître qu'il y a des gens qui ne peuvent pas par eux-mêmes se débrouiller, et donc on va créer une famille autour d'eux pour que de fait ils soient toujours surveillés, et donc tout le temps dans un monde, et en même temps savoir qu'ils vous donnent beaucoup. Toujours ce que Jean Vanier prend en disant que le petit apporte plus que celui qui surveille. Mais c'est au fond. Alors là, c'est bien évident ce que Jean Vanier voit, c'est dans une perspective chrétienne, mais pas philosophique et pas politique. C'est dans une perspective chrétienne. Mais si je pousse très fort cette perspective en essayant de comprendre, c'est bien de reconnaître qu'il y a des personnes humaines qui, en raison d'une quantité de choses, hein, sont incapables par elles-mêmes d'avoir leur indépendance. et que leur bien est de vivre autour de quelqu'un, dans une docilité vis-à-vis de cette personne, pour pouvoir s'épanouir. Ils n'ont pas assez d'indépendance. Et alors, c'est là le point très délicat, parce qu'il faut à la fois reconnaître que dans leur nature, ils ont une dignité humaine, parce qu'Aristote se souvient pas assez, c'est une évidence, c'est une évidence. Et l'enfant en réalité, oui, une dignité au niveau ontologique, on dirait, reconnaître la personne, vous voyez. Et c'est sûr que si Aristote avait poussé plus une métaphysique de la personne, on aurait vu comment là, la difficulté. Et il me semble que du fait même qu'il reconnaît qu'il peut y avoir une amitié entre le maître et l'esclave, ça prouve qu'il reconnaît qu'il a une dignité d'homme. Autrement, il n'y aurait pas d'amitié. Et alors, à la fois reconnaître cette dignité, donc reconnaître une indépendance radicale, et en même temps reconnaître que pour son bien, il doit vivre dans un certain milieu où il aura possibilité de pouvoir se développer et de coopérer. Alors, évidemment, c'est très difficile.
En tant que personne, c'est tout le monde,
ontologiquement. Oui, au point de vue de l'exercice, au point de vue moral, éthique.
Et donc, tout ce que dit Aristote sur l'esclavage, sans utiliser le mot esclave, on pourrait impliquer.
On pourrait impliquer quand, si c'était appliqué avec intelligence et toujours avec, pour le bien de l'autre. Ce qui est très rare. Et ça demanderait une très grande générosité. Mais c'est ce qui devrait arriver dans la vie religieuse. La vie religieuse devrait pouvoir permettre à certains qui ne pourront jamais acquérir une indépendance totale, de pouvoir vivre une vie humaine contemplative, parce qu'en fait, pour nous, c'est la contemplation, tout en reconnaissant que c'est vrai, ils ne peuvent pas. Moi, je crois que ça, c'est la vie religieuse a été conçue comme ça, comme un point de vue profond, au départ. Que sans doute c'est comme ça qu'on doit la. Alors on a réétabli, vous voyez, les frères Convert et les frères. Ouais, très bien. C'était réétablir politiquement les distinctions qu'on ne devait pas établir. Parce qu'alors c'est plus une famille. Dans une famille, vous n'allez pas dire, ah tiens, celui-là, il est plus bête que l'autre, il sera toujours un frère cadet ou il sera un frère Convert. Enfin, l'autre, c'est un dirigeant, il faut recommander. On doit considérer tous frères en sachant que les uns apportent ce que les autres n'apportent pas. Et que le frère qui n'arrive pas à tel ou tel développement, mais très bien, ça n'a pas d'importance. On sait bien qu'on ne lui donnera pas l'autorité. Parce qu'il ne pourra pas, il manque de prudence. Et c'est pas ça qu'on regarde en premier lieu. On regarde en premier lieu d'autres facultés, d'autres capacités, la capacité d'aimer. Et c'est ce que Jean Vanier regarde toujours, c'est sa capacité d'aimer qu'il regarde dans les handicapés. Donc c'est la capacité d'aimer. Il voit que cette capacité d'aimer est quelquefois chez eux bien plus grande que chez des intellectuels très poussés. Où Aristote n'a pas vu suffisamment, ça c'est sûr. Mais vu son temps, étant donné que l'esclavage était un ami, et qu'il y avait non seulement l'esclavage, mais l'esclavage aussi un ami, l'esclavage de la guerre, le Sparte était un ami. Alors là, il est très audacieux. De dire ouvertement, même cet esclavage-là n'est pas bien, il est inhumain. Et vis-à-vis de l'autre, alors, c'est là où le point c'est très délicat. J'avoue que ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Moi, j'aurais aimé que vous puissiez développer, même peut-être sans écrire là quelque chose là-dessus exactement, pour voir exactement où le principe philosophique et le pose, le comment du fait, vont se toucher. Vous voyez ? De facto, on constate qu'il y a des esclaves. Si on étudie ce que c'est que l'esclave en respectant la nature humaine, on voit que l'esclave doit respecter l'autre. Mais de facto, on considère. Alors, jusqu'où le principe de la dignité de l'homme pousser jusqu'au bout, doit-il supprimer l'esclavage? Oui. Ou au contraire, doit-il faire que ce n'est plus un esclavage, c'est une amitié poussée jusque-là. Je ne te chasserai jamais, tu seras toujours de la maison. Je suis tout à fait conscient, je sais très bien que tu ne pourras pas te dépêtrer toi-même, te mettre à la porte, c'est te mettre dans le fossé. Alors, mais tu ne seras jamais chassé, tu fais partie de la maison. Et il y a un lien. Il y a un lien mutuel, tu fais partie de la maison. On sait très bien que faut s'entendre, s'aider mutuellement. Oui. Alors, évidemment, le mot esclave est gênant, parce qu'il y a tout un halo affectif. Mais si je prends la définition des points de l'esclave en disant coopérer, non pas au niveau de l'efficacité en premier lieu, mais au niveau de l'action humaine, c'est très bon ça. La distinction entre organon au niveau de l'action et l'organon au niveau de l'efficacité me semble capitale. Doit aller, non seulement ça peut, mais c'est ce que nous en tient. Ça doit aller jusque-là. Ça doit aller jusque-là, mais Aristote ne peut pas. On est en politique, on est en Grèce, à cette époque-là. On ne peut pas aller plus loin. C'est ce qui me semble. Oui, parce qu'on est en politique. On n'est pas dans un point de vue proprement où on peut établir ce qu'on veut. On est en politique où il y a des questions de fait. Ça, l'homme libre, ce serait la personne libre. Oui. Ce serait l'homme libre. La dignité ontologique de l'homme libre. Mais on sait que sa liberté est imparfaite, elle est branlante. Redonner la liberté aux gens comme le plus grand bien qu'on leur donne, c'est très fou. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. On redonne la liberté aux gens, et puis à quoi ça sert? J'ai vu ces choses-là. À Fribourg, en Suisse, des gens qui avaient fait de la prison, on les libère, ils ne leur donnent aucune capacité de pouvoir reprendre leur vie. On vous donne la liberté. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'ils ont été en prison, on leur impossibilité de demander à une banque d'avoir de l'argent. Parce qu'ils ont été en prison, impossibilité d'être pris dans des banques, c'est l'entrée. Vous avez été en prison, par vol, jamais. Donc vous êtes mis au banc de la société. Non, vous êtes libre. Non, vous êtes libre. Donc vous n'avez pas la possibilité de vous redresser. C'est vous effrayant. Donner la liberté aux gens sans leur donner les moyens d'avoir une vie humaine, c'est-à-dire de pouvoir aimer, de pouvoir coopérer avec les autres, c'est quelque chose. On devrait libérer en trouvant quelqu'un, un parrainage. On ne cherche même pas un parrainage. Parce que vraiment, on ne serait pas libéré. C'est là où il me semble qu'il y a comme une espèce de la liberté comme une espèce de slogan tellement grand que ça devient très fort.
Il y a une différence entre le bien commun au niveau de la société et le bien commun au niveau de la famille.
C'est ça. Alors ça, on le reverra au terme, ce que je dis tout à l'heure. Si tu es le bien commun personnel, le bien commun de la famille et le bien commun des citoyens. Le bien commun personnel, le bien de la personne, le bien commun de la famille et de la citoyenne.
Est-ce qu'on peut forcément partir des talents d'une personne humaine? Il dit qu'il y a une différence de nature.
Non, il ne dit pas qu'il y a une différence de nature. Aristote n'a jamais dit qu'il y a des différences de nature.
C'est la question que lui répond aux imposés.
Oui, mais je dis qu'il n'y a pas de différence de nature. Je n'ai jamais dit qu'il y a une différence de nature, hein, fais attention. C'est pour ça que j'ai dit que c'est toujours la dignité de la personne. Oui. Et c'est pour ça que pour nous, ayant un concept plus précis qu'Aristote de la personne, en fait, c'est vrai, c'est un des aspects sur lequel la philosophie a précisé beaucoup le point de vue de la personne. Quand on reconnaît que tout être humain à une personne radicalement libre et radicalement capable de vivre. Et que la personne humaine doit être respectée comme une absolue. Je dois comprendre qu'il y a des status, des états différents. C'est au niveau de la manière d'exercer de l'acte. C'est uniquement à ce niveau-là. Et Aristote se situe à ce niveau-là. C'est qu'il y a des exercices différents de l'opération humaine. Il y en a qui peuvent plus facilement atteindre la prudence, il y en a d'autres qui l'atteignent plus difficilement.
Comment ça? C'est peut-être une idée de tentative, mais quand les gens s'opèrent, ils disent que c'est le même que les têtes sont sous le développeur.
C'est là où il dit qu'il y a une purification à faire. Il y a une purification par rapport au point de vue de la personne. C'est au point de vue de la personne qu'on doit regarder. Aristote condamne l'esclavage de politique. Ça, c'est net. Hein? C'est très très net. Il condamne l'esclavage politique. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage politique? L'esclavage politique, c'est l'esclavage qui est fait par la force. Forme des armées. Aristote dit, moi je crois, c'est l'essai qu'il fait, il y a un essai extrêmement intéressant, c'est ça qu'il faut regarder, il n'est pas abouti jusqu'au bout. Est-ce qu'il pouvait le faire dans le contexte historique dans lequel il est. Ce qu'il fait me semble très intéressant, c'est ça qui me semble intéressant à voir, c'est que on doit essayer de trouver la différence entre l'instrument au niveau de l'opération humaine et l'instrument au niveau d'efficacité. L'instrument au niveau d'efficacité conduit à la destruction de l'homme. L'instrument au niveau opération ne conduit pas à la destruction, doit conduire au contraire à une libération. Que Aristote n'est pas abouti jusqu'au bout. Parce que de fait, on se trouve devant un statut politique qui fait que l'esclave est l'avoir, propriété. Alors, c'est là une value très délicate. Parce que si c'est un avoir, c'est un état. Donc, au fond, on met l'esclave dans l'impossibilité de pouvoir acquérir la prudence. Or, on ne peut jamais dire d'avance que quelqu'un n'acquérera pas la prudence. On peut constater qu'il y a des gens qui n'ont pas la prudence. De facto. Mais dire d'avance qu'ils ne l'acquerront jamais, on ne peut pas le dire. Alors, ça, c'est le point délicat. C'est dans ce sens-là que vous avez souligné, c'est vrai qu'il y a une espèce de petite contradiction entre ce qu'il dit qui devrait mener à la libération, conduire vers la libération. Enfin, si on est vraiment humain et qu'on a, on coopère avec d'autres hommes qu'on considère étant dans un état inférieur au nôtre, on doit les aider à rejoindre ce même état. Du fait même qu'on les considère comme propriété, c'est là l'aspect matériel et l'aspect qui fait qu'on n'a pas assez de respect vis-à-vis des personnes humaines, parce que jamais un homme ne peut être propriété d'un autre homme au sens strict. Oui, mais là c'est vrai que là il y a une contradiction. Alors moi je crois que cette contradiction, il faut la comprendre qu'on est en politique, donc on regarde un fait qui existe. Alors, on essaie de comprendre ce fait, et on essaie de comprendre comment on pourrait dépasser ce fait. La distinction qu'il fait entre instrument au niveau de l'opération et instrument nous donne la possibilité de dépasser ce fait. Donc, vous avez deux interprétations que vous pouvez donner. Une interprétation pour le philosophe, pour montrer que la distinction qu'il fait doit conduire à la libération et donc faire que l'esclave devienne la vie. et donc que l'esclave soit libéré. Ce qui existait, il ne faut pas oublier.
Existait plus que ce dont vous parlez, qui est grâce à 100 ans sans prendre conscience.
Et bien plus.
C'est plus la masse qui est grâce.
Oui. Alors on ne parle plus des esclaves, là, on parle des ouvriers, vous voyez, vous avez bien parlé. Et l'ouvrier, ce n'est pas uniquement l'ouvrier, c'est en fonction d'une idéologie, vous n'entrez pas dans l'idéologie. L'idéologie fait l'homme esclave bien plus.